Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Ravi de vous retrouver pour votre premier clap de l'été. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Célèbre réplique d'À bout de souffle parfaite pour illustrer le programme de clap. Tout au long de l'été, chaque semaine, nous choisirons une thématique à revisiter en rapport avec l'été. Et aujourd'hui, on va commencer avec les clubs de vacances ou encore les croisières. Didier Alouche nous livrera son JT d'Hollywood qui sera consacré tout au long de l'été à ses meilleurs souvenirs de cérémonie des Oscars. Pierre Ninet et Sabrina Ouazani nous diront tout sur les films de leur vie. Enfin, pour m'accompagner tout au long de cette heure et pour évoquer l'actualité des sorties salles, mes deux acolytes, Victor Bonnefoy et Franck Vallière, en pleine forme.
En pleine forme, oui, toujours.
C'est tôt, hein, on n'avait pas l'habitude. D'habitude, c'était 14h, 15h. Là.
C'est vrai, changement d'horaire, 10h pendant tout l'été.
C'est ça les vacances ? On m'avait vendu des vacances, c'est ça les vacances ?
Sinon, on va parler cinéma aussi.
Tout à fait, il y a plein de bons films. On commence l'été sur les chapeaux de roue.
On va parler de quoi notamment ?
On va parler notamment d'After Young avec Colin Farrell, un film ma foi qu'il est beau, ma foi qu'il est doux, ma foi qu'il est fort.
Victor, le même coup de cœur ?
Il s'appelle Franck, jusqu'à preuve du contraire. Franck, alors, qui a le même prénom que moi ?
On va parler un peu de The Sadness, le seul film gore, ultra gore de l'été.
Voilà pour le programme de votre clap. Impossible de commencer cette émission sans rendre hommage à James Caan, incroyable acteur. On l'a vu notamment dans Misery, aux côtés de Kathy Bates, dans le rôle de cet écrivain torturé. Et ce film qui ne prend pas une ride. Moi, je l'ai revu récemment. C'est une interprétation absolument glaçante. Et puis surtout, l'inoubliable Sonny Corleone dans Le Parrain.
Alors, je les tuerai tous les deux.
Qu'est-ce que t'as dans le citron, monsieur l'intellectuel ? Toi qui voulais pas tremper les mains dans le business, voilà que tu veux descendre un pont de la police parce qu'il t'a tabassé sur les bords ? Hey, où tu te crois, dans l'armée ? On flingue pas les gens à distance ici, non, faut venir leur tirer dessus comme ça, ping ! Et puis ils pissent leur cervelle sur ta belle chemise !
Crois-moi, c'est une histoire énorme. Et nous avons pas mal de gens payés pour nous dans plusieurs journaux, n'est-ce pas ?
Ouais.
C'est pas personnel, Sonny. C'est uniquement les affaires.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Eh oui.
Ah oui, oui. Jusque-là.
C'est ça aussi l'été. Voilà, c'est parti, c'est l'été sur Europe 1. Et à cette occasion, nous vous proposons tout au long de l'été des émissions spéciales. Cette semaine, nous avons choisi la thématique du club de vacances ou encore de la croisière au cinéma. Et pour ouvrir les festivités, évidemment, le film culte par excellence, Les Bronzés au soleil de Patrice Lecomte, avec toute l'équipe du Splendide qu'on aime tant, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot. Franchement, c'est que du bonheur, non, les garçons ?
Déjà, c'est incroyable de se rendre compte à l'époque de l'alchimie qui fonctionnait entre eux et qui va perdurer après sur d'autres films, que ce soit Les Bronzés font du ski, que ce soit Papy fait de la résistance, que ce soit tous ces autres films qui, alors qu'ils ne sont malheureusement pas de ma génération, soyons très très honnêtes, mais,
c'est vrai.
Mais j'imagine que Franck, toi, tu les as beaucoup plus côtoyés.
Écoute, moi, je suis né en 1993, donc non, mais c'est vrai que ça reste.
Je suis né en 94, attends.
Je préfère un petit peu quand même Les Bronzés font du ski, parce que. C'est du bonheur, comme tu le disais, Laurie, mais c'est du bonheur très sexué. Hein, parce que bonsoir, nous allons nous coucher. Et la suite, vous connaissez la
voilà,
phrase.
Voilà, bien sûr.
Ça n'arrête pas quand même. Mais en même temps, c'était le principe. Hein. C'est le club.
C'est aussi
de
le
vacances.
Principe des vacances. Voilà. Hein, globalement, si on ne fait pas ça maintenant, c'est pas en charentaise après qu'on va le faire. Hein. Donc non, c'est l'occasion.
Voilà, puis du moment que c'est fait dans le respect.
Exactement.
Voilà. Allez, ferais chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses.
Non mais ça va pas bien derrière !
Il a un malaise, le peignoir ?
Si, sex and song.
Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec ?
Ça dépend du mec, ça.
Au zénith.
Bonsoir, nous allons nous coucher.
Bonsoir, nous allons les niquer.
Bip bip !
Surtout, on pourrait plus faire ça aujourd'hui.
Ou alors à l'envers, peut-être.
Oui, ou avec un peu plus de subtilité et un peu moins de... Voilà, parce qu'il faut quand même le dire, Les Bronzés, à regarder avec notre regard d'aujourd'hui, c'est quand même ultra sexiste, c'est grossophobe, c'est hardcore quoi, à ce niveau-là. Et c'est peut-être une bonne chose qu'on puisse plus le faire parce qu'on a trouvé d'autres formes d'humour qui sont parfois plus respectueuses et qui permettent quand même de parler de cul.
C'est vrai, mais on aime quand même Les Bronzés.
Ah oui.
Bon, on continue avec un autre film de club de vacances incontournable, c'est quand même Camping avec Franck Dubosc et son Patrick Chirac.
Pastis parfum bleu.
Pastis délicieux.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Oh, mais si, on attend Patrick. Bon, on aime bien ce Patrick. Franck Camping, c'est bon, c'est une moquerie bienveillante de l'univers du camping et c'est surtout un hommage de Franck Dubosc pour les vacances de son enfance.
Bah oui, parce que je crois que savoir que Franck allait au camping jusqu'à l'âge de 36 ans à peu près. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai en plus. Et c'est un peu la France d'en haut contre la France d'en bas. L'Anvin qui n'est pas accrédité comme co-scénariste avait soufflé l'idée d'être un bourgeois arrivant chez les entre guillemets ploucs. Je dis bien entre guillemets parce que vraiment le camping c'est chouette. Mais ça rappelle un petit peu le duo du Cornio par exemple entre Saroyan joué par De Funès et Maréchal joué par Bourvil. C'est la France d'en haut contre la France d'en bas, ça fonctionne. J'étais passé plusieurs fois sur le tournage du 1, je peux vous dire que ça gueulait dans l'épinette, c'était parce que le tournage en extérieur sous la pluie, les nuages et avec tout le monde qui avait une énergie et des égos très, attention, très positifs, hein, c'était pas d'engueulade sérieuse, d'engueulade de tournage, c'était une énergie folle ce tournage.
Et c'est resté tellement culte cette réplique, on n'attend pas Patrick.
Ah non, mais totalement, et puis surtout, Franck l'abordait un petit peu, il y a une vraie bienveillance vis-à-vis de son sujet, c'est-à-dire que justement ça pourrait être un truc qui traité par un prisme très parisien pourrait avoir ce côté bah voilà, c'est les ploucs qui vont au camping, bonsoir, ça nous intéresse pas. Là, on sent un amour de la part de Franck Dubosc, de la part des gens qui travaillent là-bas. Puis même, moi j'aimerais qu'on cite quand même il y a Claude Brasseur dans le film qui est absolument merveilleux, qui est ultra touchant lui aussi. Non, c'est une belle bande que celle du camping.
Alors dans un autre registre, hein, si on pense été et club de vacances, évidemment, il y a celui-là.
Franck et Laurie viennent de se lever dans le studio.
Attention,
ils refont la danse.
On se fait apporter, Laurie.
Oh
mon Dieu.
Mettez-vous-y à deux, mais rattrapez-moi. Je vais tenter de porter. Ah, le porter, Patrick Swayze, les danses endiablées, bébé, on ne laisse pas bébé dans un coin. C'est le film culte par excellence, le film de toute une génération. Qui n'a pas rêvé de Vendeur T-Dancing? L'histoire de cette jeune fille qui tombe amoureuse du prof de danse dans le club de vacances, mais tout y est, tout est réuni.
Quand on est une fille.
Oui, c'est vrai. Il devait y avoir deux, trois hommes qui ont rêvé de Patrick Swayze. Hein.
Moi, je peux dire qu'il y a deux personnes qui n'ont jamais rêvé devant Dirty Dancing, c'est Patrick Swayze et la comédienne principale dont j'ai plus le nom.
Jennifer Grey, qui ne pouvait pas se supporter.
Voilà, et qui ne pouvait pas se blairer. Pour eux, justement, ça a été, on parle de jouer la comédie, ils n'ont jamais autant joué la comédie que dans ce film, sachant qu'ils ne pouvaient vraiment pas se blairer. Et pourtant, nous, quand on les regarde, on sent une véritable alchimie et on a envie de ne pas laisser bébé dans un coin.
Oh là 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 là, mais qui n'a pas rêvé non plus d'apprendre le tcha-tcha avec Patrick Swayze?
Moi.
Mais il est plus dispo.
Je suis sûr que tu en ferais très bien.
Du cha-cha, ouais. La danse de salon, tu sais. La danse, c'est l'expression verticale d'un désir horizontal.
Ah, mais tu l'as déjà dit la semaine dernière.
C'est pas
la
oui, mais ce n'est que ça. Moi, je ne peux pas danser avec une inconnue comme ça. C'est pas possible.
Bon, après les clubs de vacances, on change totalement de registre. Massacre au camp d'été, Victor.
Oui, alors.
Qu'est-ce donc que cette affaire?
J'avais envie d'amener des bizarreries cet été, et notamment celle-ci, qui, je pense, est un. Alors, on est dans une vibe des slashers des années 80, un peu bête, un peu cracra, où on a des jeunes en crop top et en short qui vont se faire massacrer gentiment la mouille, et c'est exactement ce qui se passe avec Massacre au camp d'été. C'est des jeunes comme ça, mais au milieu de ces jeunes, il y a une fille, et cette fille-là semble un peu étrange, semble un peu en décalage, et tous ses camarades commencent à mourir les uns après les autres dans ce camp d'été où il y a plein de gens. Le film vaut ce qu'il vaut. Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie.
Comme Souviens-toi l'été dernier, un peu ?
Non, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux que Souviens-toi l'été dernier. Mais surtout, il vaut pour son plan final. Quelque chose. Voilà, on parlait de choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui dans une certaine radicalité. On ne pourrait plus faire la fin de Massacre au camp d'été, qui est un des plans de cinéma qui m'a le plus traumatisé de ma vie. Quand on cherche Massacre au camp d'été sur Google Images, on tombe sur le plan final du film. Ne le faites pas. Voyez le film et vous comprendrez pourquoi.
C'est bien vendu. J'achète.
Oui.
Franck Vallière, un petit mot rapide sur Vendredi 13 ? Dans le genre.
Alors, Vendredi 13, alors c'est un peu le même principe, hein, si ce n'est que Jason Voorhees est donc un enfant qui s'est noyé pendant que ceux qui devaient le surveiller étaient en train de copuler. Donc c'est la morale chrétienne qui s'abat sur le comme, et on peut chrétienne, alors ça va un moment, parce que là ça on a assisté avec Jason Voorhees à des suites. Il y a eu 12 suites.
Jason X dans l'espace,
voilà. Il y a eu Jason versus Freddy. Non mais
c'est
n'importe quoi. Mais le premier Vendredi 13 est quand même impressionnant, parce que de la rhubarbe le soir au coin du feu et des gens qui se... Mais ça ressemble à... Enfin, c'est à peu près le même délire.
Ouais, sauf que là, c'est... De mon côté, c'est moins une bande de jeunes que vraiment un camp de vacances avec des ados de 14-15 ans. Alors que Jason, il y a aussi le côté vengeance de maman, tu vois.
Oui. Alors ça, faut pas... Ah, oui, bon, ça...
Voilà.
Bon, en tout cas, ça fait bien flipper. On va adoucir l'ambiance maintenant. Quoique, je sais pas, puisque ça reste quand même violent dans son genre. La comédie du duo Toledano-Nakash, Nos jours heureux, et surtout cet extrait.
Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ?
T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ?
C'est pas fini.
Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard ! Connard ! Connard !
Joséphine bon. Demeaux.
Et Joséphine Demeaux, elle est géniale. Ouais. Visiblement, elle n'était pas sage, hein, le petit garçon. On adore ce film, comédie hilarante sur l'ambiance des colonies de vacances. Bon, j'espère que vos enfants, qui sont peut-être en ce moment en colo, sont un peu mieux traités et sont beaucoup plus sages. Pour terminer, juste rapidement, on en reparlera évidemment dans Clap cette année, mais un mot sur la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, le film de Ruben Östlund, Triangle of Sadness.
Oui, tout à fait, qui parle d'une croisière, avec des ultra-bourgeois, qui va virer au drame à base de vomi et de caca, mais on en reparlera, c'est quand même la Palme d'Or.
On va pas se priver de ça. On part direction Los Angeles pour la première chronique de l'été de Mister Didier Alouche, qui va évoquer pour nous tout au long de l'été ses meilleurs souvenirs des Oscars.
Salut Laurie, salut à tous. Cet été, je vais vous proposer de revivre avec moi des grands moments d'Oscars, mais à la première personne.
And the Oscar goes to Juliette Binoche in The English Patient.
Le 24 mars 1997, Juliette Binoche remportait l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Le Patient anglais. De mon côté, je vivais mes premiers Oscars à Canal. À l'époque, Isabelle Giordano présentait la cérémonie et je n'avais qu'un seul job. Si jamais Binoche l'emportait, ma mission était de lui demander de venir nous rejoindre en direct sur le plateau. Et donc quand Juliette gagne, elle entame le parcours habituel des vainqueurs, la scène, les photographes et la conférence de presse. C'est là que je l'attends. À la fin de la conférence, je me précipite vers elle et lui demande de rejoindre Isabelle en plateau très gracieusement. Juliette accepte malgré le regard noir de son attaché de presse américaine. Il fallait donc accompagner l'actrice vers les plateaux situés derrière le théâtre. Et pour cela, il fallait parcourir des couloirs bien étroits. Juliette portait une magnifique robe dessinée par Sophie Sidbon, une tenue en velours et à longue traîne. Retenez bien la traîne. Sur le chemin menant au studio, je félicite Juliette, je lui dis à quel point j'aime Le Patient anglais et je lui marche sur la traîne, une première fois. Regard assassin de l'attaché de presse, je me confonds en excuses, reprends la conversation, Juliette est très émue et pouf, je lui remarche sur la traîne. Juliette ne dit rien mais sa publiciste me lance un regard mitraillette immédiat. Je me refais carpette, je suis en totale panique et là évidemment, troisième pas sur le velours de Juliette, troisième pas, fatal. L'attaché de presse me lance un terrible « ok, enough » et entraîne Juliette. Binoche et son Oscar disparaissent, elle ne viendra jamais en direct sur Canal. Je retourne tout penaud au plateau Canal, prêt à présenter ma démission à mon rédac chef pour marche sur traîne impardonnable. Au lieu de me virer, il explose de rire. Ma petite mésaventure binoche-oscarienne fera longtemps rire dans les bureaux de Canal+. Mais sans plus de conséquences, Isabelle interviewera longuement Juliette le lendemain. Depuis, j'ai eu moi-même la chance d'interviewer plusieurs fois Juliette Binoche. C'est une actrice fascinante, une femme passionnante. Nos entretiens se sont toujours merveilleusement déroulés. Mais jamais, jamais, je n'ai osé lui parler du jour où j'ai marché sur sa traîne.
Quel grand timide ce Didier. Merci beaucoup Didier. À la semaine prochaine et dans un instant, Pierre Ninet et Sabrina Ouazani reviendront pour nous sur les films de leur vie. Ne bougez pas, Clap spécial été, ça reprend dans un instant.
10h, 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver pour nos émissions de l'été. Tout au cours de la saison, j'ai eu le plaisir de rencontrer celles et ceux qui font le cinéma et d'évoquer avec eux les films de leur vie. On commence avec le questionnaire de Pierre Ninet. Pierre, on va aborder les films de votre vie, si vous êtes d'accord.
Avec plaisir.
Alors, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Meilleur souvenir de cinéma, je dirais que... La vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller. Mmh. Assez récent. J'adore ce film. Et c'est surtout, si vous me posez cette question, je pense c'est un souvenir de cinéma parce que j'étais avec mes meilleurs potes. Genre, on était peut-être même 10 ou 12, une grande bande de potes au cinéma. Et quel kiff d'aller dans une salle. Et puis, c'est vraiment un feel-good movie, film, qui est un appel à l'aventure et à oser des choses. C'est un film que j'adore et puis surtout le souvenir d'être avec tous mes potes et de se regarder pendant le film et de savoir qu'on est entouré de gens qu'on aime en allant au cinéma, ça je trouve que c'est particulier, quoi.
Bah, c'est toute l'essence du cinéma, c'est pour ça qu'on est bien heureux que les salles de cinéma aient rouvert, c'est le partage, partager ça avec des gens qu'on aime, ouais, ou des gens qu'on ne connaît pas aussi. Mais...
Bien sûr, ouais, je pense qu'il y a aussi un brassage social important qui se fait de rire ou d'être ému ensemble et qui sera indétrônable, j'en suis sûr.
Alors, votre première grande émotion au cinéma ?
Je pense que c'est La vie est belle de Benigni, qui est un film que j'ai vu jeune. En fait, je réalise que mes parents m'ont emmené voir ça assez jeune. Mais pareil, l'humour, la poésie, alors que c'est un sujet si grave et si lourd.
Oui, puisque c'est l'histoire d'un père juif italien déporté dans un camp de concentration avec sa famille, qui veut éviter à son fils d'affronter l'horreur de la situation et qui transforme son quotidien en jeu.
Exactement. Il lui fait croire que ces camps de concentration sont en fait un grand jeu de cache-cache, de représentation. Et l'humour, la poésie qui est insufflée dans le film, c'est juste absolument sublime et à pleurer. J'adore ce film, donc c'est une énorme émotion d'avoir découvert ça. Ouais.
Ah, tu vois, je sais, ton papa, il t'emmène dans de beaux endroits quand même, hein? Et toi alors, tu as joué avec les autres enfants aujourd'hui?
Oui, mais ils connaissent pas les règles du jeu, ils en ont même pas entendu parler. Ils disent que c'est pas vrai qu'on gagne un char d'assaut comme prix. Ils savent pas qu'il faut marquer des points.
Ils ont essayé de te rouler.
Alors, votre séance de cinéma la plus dingue?
Je dirais que c'est la Tour Montparnasse Infernale que j'ai vue au Gaumont-Parnasse et qui était peut-être la première fois que j'avais le droit d'aller au ciné qu'avec des amis. Et hystérie collective, quand une comédie électrise vraiment un public, quoi. Et ça a eu lieu ce jour-là, c'était le mercredi de la sortie. Et j'étais littéralement par terre de rire, quoi. Vraiment, j'étais par terre, je n'en pouvais plus de rire. Il y avait une électricité magique dans la salle, comme ça peut arriver sur les comédies. Je suis persuadé que le cinéma aussi... ça a été quand même aussi pensé comme ça, pour ça, quand on pense à Chaplin, à ses premiers films. Je pense qu'il y a un truc populaire très fort aussi.
Alors c'est avec Eric et Ramzy qui vont beaucoup plus loin à l'époque que Les Nuls. La Cité de la Peur, ça va encore plus loin, la Tour Montparnasse. Et c'est vraiment une époque où je crois que ce sont les premiers à être allés aussi loin dans l'absurde.
Ouais, complètement. En tout cas, ils avaient un duo tellement, une alchimie de débile, de Dumb and Dumber, tellement, tellement fort, tellement drôle. Moi, c'est vraiment des héros de ma vie quand même, Eric et Ramzy, que ce soit... même en dehors des films, ils ont fait un Vie ma vie qui est incroyable. J'invite les gens à aller sur YouTube le découvrir, où ils vont au GIGN, c'est juste exceptionnel. Donc, grand
souvenir.
Le film
aura 20 ans cette année.
Je le dis toujours à Eric quand je le croise, je lui dis que c'est ma comédie préférée. Avec La Cité de la Peur, sans doute. Mais,
La Cité de la Peur, c'était bien aussi.
Ça va ? Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con.
Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit, là ?
Chut, chut, chut.
T'es mignon, mais t'es un tout petit breton.
T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit « je suis mignon ».
Elle a dit aussi « t'es un tout petit breton ».
Le film que vous revoyez sans cesse ?
Le Truman Show, que je vois beaucoup, je pense au moins une fois par an. Ouais,
film de Peter Weir
avec Jim Carrey.
Film complètement avant-gardiste, quoi, en avance sur notre époque, puisqu'il est dans une télé-réalité, il ne le sait pas.
Il est dans une télé-réalité, il ne le sait pas, et je pense qu'on a tous cru qu'on était dans une télé-réalité et qu'on ne le savait pas en sortant de ce film. C'est une bonne paranoïa mondiale.
On se demande s'il n'y a pas des caméras quelque part, je suis complètement d'accord.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, t'es interdit !
Pourquoi ? Il y a quoi de l'autre côté ?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Votre comédie romantique préférée ?
Alors, Love Actually, c'est sûr que c'est mon top, top. Je trouve que c'est vraiment un film très, très, très réussi. Qu'il faut pas hésiter à défendre des films qui sont soi-disant légers. C'est dur de faire un film léger et généreux. Donc, Love Actually, chef-d'œuvre. Et puis, en français, pour un petit peu quand même le côté cocorico, L'Arnaqueur avec Romain Duris, c'est une réussite totale.
Oui, c'était un très beau succès. C'était un beau duo de cinéma. Love Actually, bon, évidemment, on l'a tous vu une fois.
Ouais, bah, ça aussi, on le connaît par cœur.
Quelle est votre scène préférée ? Les pancartes ?
Non, moi, je suis moins midinette que ça, quand même. les figurants qui doublent des acteurs porno dans le film et devient un crush trop mignon entre deux, alors qu'ils doivent reprendre des positions, évidemment, sexuelles pour doubler ces acteurs porno. Je trouve que c'est la meilleure rencontre romantique, la plus drôle et la plus mignonne.
C'est vrai que ça crée des liens.
Ouais,
c'est vrai que cette comédie de Richard Curtis, hein, pour rappel, si vous ne l'avez pas vue, mais je pense que vous devez être très peu à ne pas avoir vu Love Actually, sont plein de destins qui s'entrecoupent à la veille de Noël.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est le film de chevet à revoir au moment des fêtes de Noël.
Ouais, franchement, c'est magique ce film.
Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir?
Je dirais tous les Hitchcock. Mon père, il m'a fait découvrir tous les Hitchcock. J'ai un souvenir peut-être plus vif de Vertigo.
Sueur froide.
Ouais, Vertigo, il m'a vraiment marqué. Fenêtre sur cour aussi.
Oui.
Mais ouais, les Hitchcock, j'ai eu la chance de les voir jeunes.
Votre bande originale de film préférée?
Je dirais les films d'Inarritu, sûrement Babel. Alors, je vais toujours mal dire son nom, mais c'est Gustavo Santaolalla. Je crois que je me plante.
Ça a l'air d'être pas mal.
Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. J'ai toujours un peu du mal à dire son nom, mais j'adore sa musique. Je l'ai même emprunté pour une pièce de théâtre que j'avais montée. Donc, je dirais Babel, ouais.
Alors, la bande originale qui vous émeut à chaque écoute?
Et bah, même compositeur, mais pour 21 grammes. Peut-être aussi parce que le
même
film.
Même réalisateur.
Même réalisateur et film bouleversant avec Sean Penn. Ouais.
Sean Penn et Benicio del Toro, ils filment très, très fort, très dur aussi.
Ouais, il fait rarement des films très, très gays.
Oui, c'est vrai.
Mais.
Parce que le pitch, c'est quand même qu'on perd tous 21 grammes au moment précis de notre mort.
Ouais.
Et on suit trois destins.
On se demande si c'est le poids de l'âme ou pas. Ou qu'est-ce que c'est? On sait pas, mais en tout cas ce film est magnifique, ouais. C'est un film que je trouve bouleversant. Mais Amour Chienne aussi, enfin tous les films d'Inarritu c'est magnifique.
Ne bougez pas, dans un instant on va évoquer les films de la vie de Sabrina Ouazani. À tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h
Clap, Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous, c'est la suite de Clap, spéciale émission de l'été sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver et de vous faire partager les meilleurs moments de celles et ceux qui font le cinéma et qui nous parlent des films de leur vie. Tout de suite, c'est Sabrina Ouazani. Je vais vous demander votre première grande émotion dans une salle de cinéma.
Ma première grande émotion, c'était Le Roi Lion. C'était Le Roi Lion parce que, plein de raisons, parce que, Le Roi Lion.
Déjà, oui, c'est une bonne raison.
C'est une très, 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 très grande bonne raison. Et puis aussi parce que c'était la première fois que j'allais au cinéma avec ma maman. En fait, c'était une sortie organisée avec l'école ou le centre aéré, je ne me rappelle plus, l'un des deux. Et donc, ils avaient besoin d'une chaperonne, de quelqu'un qui accompagnait. Ma maman s'est proposée. Donc, c'était aussi premier cinéma, premier grand Disney, comme ça, se prendre en pleine tête sur un écran dans un fauteuil rouge et avec ma maman.
Avec les musiques et tout ce que ça raconte. Le Roi Lion, c'est quand même magnifique.
C'est
moi aussi.
Fou.
Oui.
Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci.
Alors moi, juste pour vous voir kiffer sur les chansons du Roi Lion, je pourrais passer toute la BO là. Votre meilleur souvenir de cinéma, Sabrina?
Mon meilleur souvenir de cinéma, ou mon souvenir le plus fou, on va dire. Mon souvenir le plus fou, c'était j'avais 14 ans. Je venais de sortir L'Esquive. J'avais été nommée meilleur espoir féminin et j'ai croisé Will Smith dans les couloirs, je te jure, et c'est parce que lui recevait, je crois, le César d'honneur, et lui me dire hey ho, bon, bref, quelques semaines après,
il a dit bonjour, quoi.
Bonjour, mais non, ce qui était fou, c'est qu'il m'a dit que j'étais trop bien et qu'il avait vu L'Esquive. Je sais pas si c'était un truc d'américain, mais moi,
c'est
en tout
génial.
Cas, je l'ai pris et j'étais trop contente. Mais surtout, quelques semaines après, j'ai l'attaché de presse de L'Esquive qui m'appelle pour me dire il y a Will Smith qui t'invite à l'avant-première de À la recherche du bonheur et à passer le voir avant en loge. Il aimerait te présenter sa femme, il y a sa mère qui est là. J'étais là, quoi,
énorme.
Donc j'étais là, ok, je peux avoir combien de places? Je ramène mes amis, on est rentré dans la voiture, on a bombardé de la Courneuve et c'était, mais voilà, c'était incroyable, incroyable.
C'est génial, et donc vous êtes allé le voir en loge
et donc,
après?
Ouais, j'ai vu Will Smith, j'ai rencontré sa maman.
Jada Pinkett Smith, son fils
totale,
qui joue dans le film.
Ouais, exactement, et après je me suis pris la claque du film, donc c'était une soirée complètement folle.
Ouais, je rappelle que c'est un très beau film, l'histoire d'un père avec son fils qui... plein d'humilité, c'est une leçon de courage, c'est vraiment un très très joli film. Alors, votre meilleur souvenir de cinéma, sinon il y avait Pardonnez-moi de Mai Wen aussi.
Ah, parce que oui, parce que c'est vrai qu'il y avait l'avant-première de Will Smith, mais ma claque cinématographique, on va dire, c'était Pardonnez-moi Mai Wen. Ouais, effectivement, c'est la première fois, enfin, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, je me rappelle de cette fois-là où je me suis pris, mais c'est même pas une claque, c'est vraiment, pour moi, c'est un film coup de poing, c'était brut, c'était un diamant brut, c'était... J'étais transportée, bouleversée, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
ce genre de film tourné
aussi,
comme ça.
Voilà.
Des scènes de famille, un film sur la résilience aussi. Ouais. Bon, elle a beaucoup de talent, Maïwenn.
Incroyable.
Le film qui vous fait le plus rire ?
Le film qui me fait le plus rire ? D'abord, il y a Mr Bean.
Ouais.
Mr Bean, franchement, il y avait la série déjà. Moi, la télé, c'était le sixième membre de ma famille. Donc, j'en ai passé des soirées à regarder Mr Bean et tout ça, à m'éclater, à rire avec ma famille. Donc, quand le film est sorti, je me souviens des fous rires. J'y suis allée avec ma sœur.
Vous regardiez beaucoup de films en famille ? C'était très présent chez vous ?
Ben ouais, en fait, non. Moi, il n'y avait pas le cinéma. Aller au cinéma, j'ai jamais été au cinéma. La seule fois où je suis allée au cinéma, c'était voir Le Roi Lion, en tout cas,
scolaire.
Avec la sortie scolaire, et ma maman nous a accompagnés. Donc, on n'avait pas l'argent pour, mais en tout cas, oui, la télé, c'était le sixième membre de ma famille. Donc, et j'en regarde encore et toujours. Donc, ouais, quand même, toutes les séries, Nounou d'Enfer et compagnie, Friends, Les Simpsons. Enfin, bon, je ne vais pas commencer tout ça. Et je suis obligée de parler aussi des films. Des Inconnus, des Trois Frères. Les Trois Frères, ça aussi, pareil, c'est un souvenir en famille, mais je crois que c'était passé sur TF1 ou à l'époque ou quelque chose comme ça, mais je me rappelle qu'on s'était mis vraiment devant la télé, que c'était un moment et tu sais, c'était presque si on avait payé, on aurait dit, on a bien fait de payer, ça valait le coup, quoi. C'était incroyable, on a ri. Bon, voilà.
Votre Colin, avec ou sans patate ?
Sans patate !
Pardon.
Non, mais nous, on ne s'en lasse pas.
Hein. Ouais, voilà.
Je vous avoue qu'on nous cite souvent,
c'est
quand même, les Trois Frères,
oui.
Forcément.
Bah oui, c'est
magique.
C'est magique. Le pari aussi, qu'est-ce que j'avais ri. Non, mais de toute façon, Les Inconnus, moi, je suis une fan inconditionnelle.
On est fan. Le film qui vous fait tomber amoureux de son acteur ?
Pardon. Parce que, bon, peut-être que vous l'avez déjà eu souvent, mais... Drive.
On l'a pas eu.
Vous l'avez pas eu, Drive.
Pas eu Drive.
Ah ouais.
Pourtant, je suis tellement d'accord.
Ah, Ryan Gosling.
Voilà, faut pas que mon mari écoute cette émission, mais
pardon, monsieur.
Ryan Gosling dans Drive.
Alors que je sais, il y en a plein même qui se foutent de ma gueule et qui me disent
c'est
mais arrête, il a qu'une face, qu'il a une gueule.
C'est
et,
pas grave.
Et
quelle
c'est
gueule.
Pas grave. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Quelle gueule, Ryan Gosling. Bon,
et en fait,
voilà.
Peut-être que ce que vous pouvez faire, alors ça c'est vraiment mon propre avis, hein, mais vous pouvez peut-être regarder N'oublie jamais.
Ouais, N'oublie jamais. La La Land.
La La Land, et on termine par Drive, et là on dit OK.
Ouais, exactement. Allez, merci, au revoir.
C'est plié. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Oh, La Ligne Verte. La Ligne Verte. La Ligne Verte, quand même, John Coffey, ça m'a bouleversé. C'est Tom Hanks, il est tout.
Non, Tom Hanks, il est toujours tout.
Voilà, tout, et le film est bouleversant, et bon, je ne sais pas si ça existe encore, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, si, il doit en avoir. Regardez La Ligne Verte, ça va... Bon, ça va préparer les mouchoirs à côté quand même, mais c'est fort, c'est puissant, mais ça vaut le coup.
Et Billy Elliot aussi.
Et Billy Elliot, ouais, Billy Elliot, la danse, ce petit garçon, tout ce que ça raconte. Pour moi, il y a eu un avant et un après Billy Elliot quand même.
C'est ça, parce que j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu les films de votre vie, il y a quand même souvent des choses reliées à l'enfance, à la construction.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime le cinéma comme divertissement et comme moment où on est dans une bulle et on met nos problèmes de quotidien un peu sur le côté. Et j'aime aussi le cinéma, mais qui peut être divertissant, mais parfois qui fait réfléchir, qui fait prendre conscience de certaines choses, parfois qui amène au débat. Et voilà, ça peut aussi donner de l'espoir et amener des gens à aller de l'avant, à se prendre en main, à s'en sortir.
Accepter la différence. Billy Elliot, c'est ce petit garçon qui rêve de devenir danseur étoile.
Voilà,
c'est...
exactement. Et il se donne les moyens.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses ?
Je sais pas. Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide.
Ouais.
Mais quand je suis lancée, alors j'oublie tout le reste. C'est comme si je disparaissais. Je suis simplement là. Je vole. Juste comme un oiseau. Ou comme de l'électricité.
Ouais.
Il est bouleversant ce
bouleversant.
Film. Là, c'est les vacances scolaires, donc s'il y a des enfants qui nous écoutent, croyez en vos rêves et allez voir Billy Elliot.
Oui, oui.
Votre comédie romantique préférée ?
Dirty Dancing, ouais, bon, bah, de toute façon, on a déjà, juste quand on dit Dirty Dancing, on a Noah qui vient direct dans la tête. Oui !
Il y a celle-là aussi, ouais.
The time. Oh là là, lui aussi j'étais amoureuse de lui. Hein.
Patrick Swayze, bien
oh
sûr.
Oh là là, j'étais Dancing. Tellement
qui,
amoureuse.
Qui n'est pas tombé amoureuse de Patrick
Swayze?
Mais
évidemment. Swayze. Et moi, et j'ai testé et je ne lâcherai pas l'affaire sur toujours le porter.
Alors, j'allais dire si quelqu'un peut faire ce porter, c'est bien vous.
J'ai réussi, mais parfois il y a des, je le réussis et après je prends la confiance. Du coup, je fais, regardez, je vais le faire. Et j'ai pas du tout.
Ça dépend beaucoup du partenaire aussi. Hein.
C'est
il y a
vrai.
Une façon de tenir.
Laurie.
De...
Ah, moi, en tout cas, je suis prête. Si
voilà.
Un bon partenaire.
Sabrina, elle sait le faire. Mais on en avait une autre chanson là de Dirty Dancing sous le coude.
Ouais, parce qu'on aime tellement.
On aime trop ça.
No, hey. Mais non, The Time of My Life, c'est le début.
Ça, c'est Time of My Life.
Attends, et l'autre
Just a little bit longer.
Elle est pas mal aussi, ça.
Ouais.
Vous avez le droit de danser, hein. Je sais pas où vous êtes.
Oui,
vous êtes
beau,
chez vous, dans la voiture.
Moi, j'adore danser, chanter dans la voiture.
Ah, moi aussi. Ça fait du bien.
Oui.
Bon, voilà, quoi. On laisse pas bébé dans un coin.
Wow, ouais. Tout ça. Hein. Non, commence pas, sinon on refait le film.
Ah, mais voilà.
Je me prends pour elle, là. Non, mais... Faut que je redescende. Ah, oui.
On laisse pas bébé dans un coin.
Voilà, on laisse pas bébé dans un coin.
Elle nous
évidemment.
A tout mis. Corinne, elle a tout dégainé. Là, on a une réale, je peux vous dire, qui est au taquet.
Elle a tout donné.
Elle a compris qu'elle avait deux bonnes clientes. Merci
grave.
Beaucoup.
Merci.
Le film que vous conseillez à un enfant, Sabrina Ouazzani.
Le film que je conseille. Oh, c'est dur ça.
Mathilda.
Oh, Mathilda, grave, t'es renseignée, Mathilda, grave. Mathilda. Aussi pareil, bon bah j'étais enfant donc je le conseille à un enfant et je peux le regarder, je l'ai regardé il n'y a pas très très longtemps.
Encore
avec
un enfant pas comme les autres.
Bah évidemment, voilà, mm-hmm. Un enfant pas comme les autres et qui est incroyable,
elle
vous verrez,
incroyable.
Elle est magique, c'est le cas de le dire.
Mm-hmm. C'est vrai,
et je
très intelligente.
Et je l'ai regardé très 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 intelligente et je l'ai regardé il y a deux semaines avec mon petit neveu Léane, on était là et moi j'avais les mêmes yeux que lui, quoi. J'étais encore en train de regarder, même si je savais ce qui allait se passer la scène d'après, je redécouvre à chaque fois.
Deux et avec Danny DeVito.
Oui.
Le film que vous avez le plus vu
Roméo plus Juliette.
Ah oui.
Et là encore, je suis encore tombée amoureuse de Leonardo DiCaprio, mais pour la 12e fois.
C'est voilà. Vrai qu'il y avait lui aussi.
Il y avait
on
lui,
l'a pas cité.
Rose. Bah oh, oui.
Claire Danes. Ma fille s'appelle Rose.
Ouais, ah bah voilà, tu vois, ouais, ce film, la BO aussi est incroyable. Et la manière dont le texte de Shakespeare est repris, enfin, tout cinématographiquement, visuellement, c'est un film magnifique.
Revisité par Baz Luhrmann.
Ouais. Huh.
Une réplique culte.
Vous l'avez mis tout à l'heure, sans patate.
Sans patate.
Les trois frères, bien sûr.
Ouais.
Merci beaucoup, c'est
Merci.
Un vrai plaisir, Sabrina. Ne bougez pas, Clap revient dans un instant. Franck Vallière et Victor Bonnefoy vous diront tout sur les films à découvrir ce week-end au cinéma. A tout de suite sur Europe 1.
h 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et c'est l'heure maintenant de parler des sorties cinéma. Au programme cette semaine, le nouveau film de François Ozon, mais aussi l'histoire d'un robot devenu le cœur d'une famille. On parlera également de la suite des plus adorables petites têtes jaunes. Et pour finir, un film d'horreur très perturbant. Il y en aura pour tous les goûts. Avec moi autour de la table, Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Victor Bonnefoy qui était malade la semaine dernière.
Tout à fait,
vous
je n'étais
manqué.
Pas là, mais je suis de retour pour jouer un mauvais tour.
Ouh, ça promet. Alors on va commencer avec Peter Van Kant, le dernier film de François Ozon qui rend hommage à Fassbinder, un réalisateur, un cinéaste, dramaturge qu'il admire et il réadapte son histoire. Alors on est au cœur des années 70, un réalisateur joué par Denis Ménochet, déjà ça c'est une bonne nouvelle, tombe amoureux d'un jeune acteur avant qu'il commence à prendre son indépendance. C'est un huis clos envoûtant sur l'amour et sur le cinéma où Isabelle Adjani est absolument sublime. Vous en avez pensé quoi, Victor ?
J'ai trouvé ça pas mal. Moi, j'aime bien le travail de François Ozon, mais qui est souvent un peu sa passe ou sa cage. J'adorais Grâce à Dieu, j'adorais Été 85, et j'avais détesté son précédent qui était Tout s'est bien passé avec André Dussolier et Sophie Marceau, que j'avais trouvé absolument horrible. Et donc là, j'y allais un petit peu en hésitant sur Peter Van Kant. Il faut dire qu'il a quand même un gros avantage, c'est que dans son casting, le comédien principal, c'est Denis Ménochet. Et que voir Denis Ménochet exister, voir Denis Ménochet faire du cinéma, c'est juste passionnant. Alors, Alors après, on sait que Ozon est un passionné de Fassbinder, donc il essaye un peu de singer Fassbinder par instant, avec une forme de surexplicitation qui peut un peu faire tomber un peu à la nausée. Mais on sent du désir chez Ozon derrière cette caméra. On sent qu'il a envie de filmer ses êtres et qu'il a envie de les sublimer et de les rapprocher au plus près de sa caméra. Et rien que pour voir Denis Ménochet exister, c'est quand même plutôt un moment sympathique, Peter Van Kant.
Et dans un autre style, on continue avec The Sadness, un film d'horreur de Robert Jabaz, assez violent et dérangeant surtout. Victor fait des bonds sur sa chaise, on va en parler Victor. À Taïwan, un nouveau virus apparaît et rend la population complètement folle. Ils entrent dans une sorte de démence et sont capables de faire les pires horreurs. Et dans tout ça, il y a un couple qui essaie de résister mais qui finit évidemment par succomber, lui aussi.
Toute ma vie, j'ai cru que si je m'occupais de mes affaires, personne ne ferait attention à moi. Personne ne me ferait de mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était faux.
Le virus n'affecte pas du tout l'imagination. Au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez.
Génial.
Oui.
Allez,
oui.
Franck, allez.
Oui, c'est pas si mal. C'est le seul film gore de l'été, donc on va pas s'en priver quand même. Interdit aux moins de 16 avec avertissement quand même. Mm-hmm. Le film, ce qui est bien avec le cinéma de genre, c'est que ça s'auto-référence à Gogo, même si là, il y a deux appuis extrêmement explicites à Irréversible avec une scène d'extincteur et George Romero, le zombiste de 85. Avec quelqu'un qui se fait à peu près démembrer. Bon, ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'il y ait un peu plus de brain là-dedans. C'est-à-dire qu'on est post-pandémie, en tout cas, il y a des masques un peu qui traînent. Il y a un truc qui est, je trouve, qui est sous-exploité à fond, qui aurait pu être génial, c'est le fait que ça exacerbe, non pas une espèce de violence comme ça, mais quelque chose qui est larvé. C'est-à-dire qu'on sent bien que tous ces personnages-là sont fourbes. Le petit ami du couple est complètement focus avec sa nana, et ça va le rendre, ça va juste upgrader, en fait, son focusisme, et en passant par la violence. Bon, après. Sans déconner, là, pour le coup, ceux qui aiment le gore vont être largement rassasiés pour l'été.
Ah bah c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu depuis très 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 longtemps, hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'il faut prévenir les gens qui veulent aller voir le film, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est justement ça, tu disais, il faudrait rajouter du brain dedans. Non, c'est pas le but, parce que le but, c'est de faire un film qui est extrêmement outrancier. Moi, ce qui m'embête plus, c'est les problèmes de rythme, parce qu'on passe de temps en temps de 15 minutes où on est sous pression et c'est ultra exaltant, et après on passe vraiment à 10 minutes où c'est un calme plat. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que on peut calmer le récit par instant, mais pas le rendre, le transformer en somnifère, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui me pose problème. Donc après, par contre, si vous voulez du sang, si vous voulez de la tripaille, si vous voulez des membres, si vous voulez, pour donner un exemple, si vous voulez des membres découpés dans lesquels on vomit, voilà, ouais. C'est littéralement
ou que peut-on faire avec un parapluie et un globe oculaire.
Voilà. Ah oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire dans le trou qui reste?
Ah oui. Alors là.
Bref. Okay. Ça, vous verrez le film.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau.
On parle maintenant d'un film avec. Oui. J'ai toutes sortes d'images qui me viennent. On parle maintenant d'un film avec une thématique de plus en plus présente au cinéma, c'est After Yang. Il raconte comment Yang, un robot, est devenu le pilier d'une famille. Mais un jour, il ne fonctionne plus et la vie du père, joué par Colin Farrell, se met en pause. Il va donc tout faire pour le réparer. C'est un film très doux qui aborde ce thème d'une façon originale et bienveillante. Victor.
Tout à fait. Je me suis laissé surprendre par After Yang. Je n'attendais pas grand-chose. Puis quand j'ai vu le petit logo A24 à l'entrée du film, j'ai fait « Ah, on va se retrouver face à ce studio qui produit plein de films tout doux que j'aime beaucoup. » Et c'était le cas parce qu'en fait, on a cette famille justement qui s'est composée autour de ce robot. Et le jour où le robot tombe en panne, on découvre qu'il a une petite puce à l'intérieur qui lui permet de filmer chaque jour 5 secondes de sa vie. Et donc du coup, ce qui pose la question, c'est si on avait cette caméra, si nous, êtres humains, on avait la possibilité de garder 5 secondes de notre vie par jour, quel moment on voudrait garder? Plus que la question de la robotique et de ce genre de questions-là, c'est quelles sont les 5 secondes les plus importantes de notre journée? Quelles sont les 5 secondes qu'on aura envie de revisionner 15 ans plus tard en se disant de cette journée-là, c'est cet instant de bonheur que j'aurais voulu conserver.
Alors, aujourd'hui, vous gardez quoi?
Ah, ce moment avec vous, bien entendu. Mais non, c'est vraiment très beau, c'est très touchant.
Vif, hein.
Colin Farrell est brillant. Le film m'a profondément touché et je vous encourage à aller voir After Yang. C'est vraiment un beau moment de cinéma.
Alors attention, maintenant on va parler d'un film beaucoup plus léger et surtout pour un public plus jeune et plus jaune aussi.
The Sadness, c'est toujours ça, non?
Non, Les Mignons.
Ah oui, d'accord.
Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Ils sont de retour au cinéma dans une histoire pleine d'aventures, de blagues et de méchanceté aussi. Alors on découvre Gru enfant, un mini-boss déjà malicieux qui ne rêve que d'une chose, intégrer la bande des super méchants, les Vicious 6, dont il est fan. Mais forcément, quand on a des mignons, tout ne se passe pas comme prévu.
être méchant dans le monde. Mais moi, je vais être un super méchant.
World Order. Ce petit gamin tout gringalé pense qu'il peut faire un bon méchant.
Je peux être hyper méchant. Arrêtez de m'appeler comme ça.
Alors, à l'occasion de la sortie des Mignons, nous avons rencontré la voix de Gru, j'ai nommé Gad Elmaleh. Écoutez-le.
Alors, c'est vrai, Gru est jeune et il a fallu trouver sa voix jeune. Mais trouver sa voix, c'était quand même un peu compliqué parce qu'il fallait trouver une voix d'enfant, un timbre de voix d'enfant, mais qu'il ait la même diction, qu'il ait le même accent. Et ça, c'était pas évident parce que Gru, il a donc cette manière de parler avec son accent. Il faut reculer dans le temps pour qu'il devienne un enfant. Et qu'il parle comme ça. C'était un peu compliqué, mais ça m'a amusé énormément. Et quand j'ai trouvé sa voix, j'étais super content.
Et puis pour clôturer ce tour d'horizon des sorties salles, Franck, je sais que vous avez un gros coup de cœur pour un documentaire.
Sur Ennio Morricone.
Magnifique.
2h30 avec le maestro, interviewé Dingue. Par Giuseppe Tornatore. Collaborateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Enfin bon.
J'avais envie de vous embêter un peu.
Mais non,
je voulais voir si vous étiez concentré.
On ne se moque pas, on parle du maestro Morricone là.
Je suis d'accord.
Oh, le type a fait quand même. Giuseppe Tornatore a fait Cinéma Paradiso
c'est
avec
pas
lui.
Vrai.
La légende du pianiste sur l'océan, des monuments de l'histoire de la musique de film. Et on plonge dans l'intimité d'un homme qui était d'une austérité folle, mais en même temps qui est un staccanoviste, un bosseur, un pur bosseur. Et alors, si je vous donne la liste des gens qui apparaissent dans ce doc, c'est simplement hallucinant. J'ai pris quelques notes.
Allez-y.
Je continue pendant que vous allez faire la fin de l'émission. Hein. Donc il y a évidemment Ennio Morricone, il y a Dario Argento, John Baez, Marco Bellocchio. Tu fais la fin de l'émission, tu peux y aller parce que là, je déroule jusqu'à 13h.
Il me tutoie, il me donne
Eastwood,
des ordres. Les deux,
Roland Joffé, même Terrence Malick intervient.
Oh, mais ça, c'est incroyable.
Il y a aussi Bruce Springsteen,
Oliver Stone,
Quentin Tarantino, les frères Taviani, Zucchero,
sur cette liste non exhaustive.
Ma tante Agathe.
Bon, non. Merci en tout cas à tous les deux. Ça promet un bel été en votre compagnie. Merci pour ce premier clap de l'été. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie sur Europe 1. Très bon week-end à vous.